merci d'être déjà là, si assidu, si matinaux, pour cette première table ronde dans cet espace. Nous allons parler ce matin de 2001, l'Odyssée de l'espace à Prométhéeus, les origines de l'humanité dans le cinéma de science-fiction. Et pour en parler, j'ai un panel de choix à ma gauche, Gilles Ménégaldo, enseignant en université, auteur de nombreux, très nombreux articles sur le cinéma et la littérature de l'imaginaire, avec quelques goûts particuliers, spécialités, notamment Lovecraft, notamment
les mythes en général.
À côté, comme j'aime dire avec un scientifique, quelqu'un qui au moins sait de quoi on parle, Roland Lehoucq, astrophysicien, lui aussi auteur d'ouvrages de vulgarisation et aussi de fiction, Thomas Day, qu'on continue à présenter, comme je disais hier, auteur protéiforme, qui a exploré de nombreux genres et univers, et auquel nous sommes tous reconnaissants pour son travail d'éditeur pour la collection Lune d'encre. Et enfin, à gauche, Marc Caro, l'un des rares réalisateurs à avoir un corpus de science-fiction cohérent dans ce pays depuis extrêmement longtemps, et à qui aussi on a une dette assez gigantesque pour les quelques réalisations que je ne vais pas reciter ici et qui reviendront peut-être dans le débat. Merci beaucoup d'être là. Donc, la question de l'origine de l'humanité, comme l'illustre de manière extrêmement claire 2001, est quelque chose qui s'impose quand on commence effectivement à s'interroger et à regarder le plus loin possible dans l'univers. Regarder le plus loin que l'on peut, techniquement, ou se poser la question de manière philosophique, aller au bout de l'univers et se poser la question de comment nous avons commencé. C'est exactement ce que montre 2001. Quand on se déplace au plus loin de l'univers connu, on retombe en miroir sur sa propre origine. Et bien sûr, Prométhéeus, qui est sorti cette année, est articulé autour de cette question même de l'origine. Et déjà, désolé, je vais me tourner vers vous. Donc déjà, je vais peut-être commencer par demander à Gilles, simplement, sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, je vais poser la question que je ne devrais pas poser surtout à 10h du matin, mais on va se faire plaisir, on va le torturer un peu. Bon, ça veut dire quoi, cette fin de 2001 ?
Effectivement, oui. Bon, je pourrais vous renvoyer à un ouvrage qui est paru dans les années 70, pas très longtemps après la sortie du film, qui s'appelle « Le fœtus astral ». Et qui vous expliquerait beaucoup de choses sur justement sur le film et sur cette fin.
Mais ce serait beauté en touche.
Ce serait beauté en touche, donc c'était juste une parenthèse. D'abord, je peux quand même dire que j'ai été fasciné par ce film pour de multiples raisons, pour la qualité des effets spéciaux, l'utilisation extraordinaire de la musique, là où on ne l'attend pas forcément. Bon, bien sûr, le Zarathustra de Richard Strauss, mais surtout l'autre Johann Strauss, donc, qui accompagne un certain nombre d'évolution des astronautes et puis surtout la musique de Gheorghe Ligeti. Et c'est, bon, je crois que c'est un des points capitaux sur lequel on va peut-être revenir, c'est le Requiem de Gheorghe Ligeti, pardon, donc à base de chœurs en particulier et divers instruments, qui n'a pas été fait nécessairement pour ça, mais qui illustre très bien l'arrivée du monolithe. C'est-à-dire, chaque fois que le fameux monolithe arrive dans le film, il est accompagné par cette musique, effectivement, musique très insolite, une certaine forme d'inquiétante étrangeté, effectivement, et qui colle bien, justement, avec une altérité, hein, qui est difficile à situer. Et on a beaucoup glosé, bien sûr, sur la signification du monolithe. Donc, pour venir à la fin, effectivement, l'idée, c'est bien qu'on va aux confins de l'univers, qu'on va revivre avec des images assez splendides, d'ailleurs, encore maintenant, la naissance de l'univers, mais surtout que la mort coïncide avec la renaissance. Donc, le personnage passe par divers états, le cosmonaute survivant passe par divers états, pour revenir, curieusement, d'ailleurs, ça, c'est une question que je pourrais te poser à toi, au XVIIIe siècle, mourant littéralement dans une chambre à baldaquin, dans un lit à baldaquin du 18e. Et puis ensuite, il y a le fœtus astral justement lancé dans l'univers. Alors ça correspond plus ou moins à trois états de l'humanité, donc qu'on trouve sans doute aussi dans le roman et dans certaines gloses. Il y a aussi on pourra peut-être reparler, Daniel en parlera aussi, et d'autres, le contexte nietzschéen, l'idée des trois âges, donc l'âge de l'animal qui va devenir intelligent grâce au monolithe sur lequel les singes sont concentrés et qui tout d'un coup découvrent qu'ils peuvent utiliser les outils. Donc, on a la plus belle ellipse du cinéma, je pense, quand on passe de l'os à au vaisseau spatial, avec l'os qui est projeté en l'air par le singe au ralenti, et donc le vaisseau spatial, là, on peut dire que le ralenti sert à quelque chose, pour une fois. Ce n'est pas toujours le cas, mais Kubrick l'utilise particulièrement bien, pas seulement dans ce film, hein, dans Full Metal Jacket aussi, il y a de magnifiques ralentis. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est la première étape, donc le singe qui devient intelligent. Donc, ensuite, bien sûr, le cosmonaute, donc l'âge de la raison, on pourrait dire, à certains égards. Et puis, le troisième âge, c'est le surhomme, donc c'est représenté dans le film par le fœtus astral. Alors, bon, d'autres vont commenter peut-être beaucoup mieux que moi, mais c'était juste un début d'explication. Voilà.
Moi, je voudrais juste rebondir, puisque vous avez parlé de la bande-son. La bande-son de 2001, au départ, c'était pas du tout ça. C'est, non, non. Il y a un compositeur qui a fait toute la musique, qui s'appelle Alex North, je crois. Ouais, et on peut l'entendre, hein, ils l'ont réédité. Ouais. Et ça n'avait absolument rien à voir. C'était vraiment des violons, enfin, orchestral et tout ça. Ouais. Et il a tout mis à la poubelle, Père Stanley Kubrick. Ouais, et il est parti dans son truc qui fait qu'effectivement, c'est une part très, très, très importante du film. C'est comme tous les grands films, de toute façon. Pour moi, 50% des grands films viennent aussi de la musique, quoi.
Oui. Si je peux rajouter un codicille par rapport à ça, Alex North, c'est celui qui a fait la musique d'Un tramway nommé Désir de Kazan. Donc, magnifique musique, base de jazz, New Orleans, etc. Il a été très, effectivement, déçu, je crois, d'avoir été rejeté par Kubrick, mais il faut savoir quand même que Kubrick, globalement, n'utilise pratiquement jamais, c'est le cas pour Shining aussi, de musique originale. Il a gardé quelques éléments de musique originale dans Shining, mais l'essentiel de la musique, c'est de nouveau des musiques, justement, très variées, et en particulier des musiques contemporaines.
Tout à fait.
On retrouve Ligeti, on retrouve Penderecki, enfin, etc. Oui. En particulier.
Et pourtant, il a une très très grande complicité avec son musicien. Comment il s'appelle ? Je vais m'appeler.
Oui, le nom m'échappe aussi.
Wendy Carlos.
Voilà. Wendy Carlos, voilà. Wendy Carlos. C'est ça. Alors, il a gardé quelques éléments de Wendy Carlos dans Shining. Et par contre, dans Shining, par exemple, il y a on s'éloigne un peu, mais je veux dire, Bartok est très très important.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, pour dire que Kubrick, ce qui l'intéresse, effectivement, c'est l'utilisation inhabituelle, insolite, dérangeante de certaines musiques. Alors, des fois, ça colle très bien, des fois, c'est complètement à contre-emploi. Et c'est le cas d'un peu d'Johann Strauss, je pense. À la fois, c'est très juste parce que c'est le mouvement lent de cette navette spatiale qui évoque effectivement la valse, mais c'est quand même très inattendu dans un contexte comme ça. Donc, voilà.
Il y a, je pense, deux éléments qu'on va retrouver, on va en parler tout de suite dans 2001 sur le questionnement de l'origine. Il y a premièrement, et c'est une chose qui est reprise directement dans Prometheus, ça je m'en parle dans une minute, c'est la manière de placer le film sur un mode de questionnement pour le spectateur, et il y a la figure de la boucle. Sur la première chose, Ridley Scott reprend cette idée-là dans sa scène d'ouverture de Prometheus. L'idée est très clairement à la manière d'un Kubrick qui fait étale en longueur sa scène et qui effectivement de poser une situation et de continuer sur un jeu de détails, sur un rythme lent pour effectivement que le spectateur soit amené à se demander pourquoi il voit des singes s'activer sur une certaine longueur et que finalement il se pose effectivement cette question-là. De manière assez amusante, il le fait aussi au début de Prometheus avec une séquence énigmatique qui est une séquence à la fois individuelle et collective, qui est une séquence de début et de fin. C'est un suicide, mais c'est un suicide qui est à la fois un ensemencement de la planète, qui nous introduit en fait la dimension aquatique qu'on va retrouver avec la créature un peu plus tard. On a cette idée de destruction et de restructuration d'un génome, donc on a très concrètement un suicide qui correspond à un départ d'un vaisseau de la planète où a priori on comprend qu'ils sont en train d'abandonner. Et ce qu'on va avoir la plupart dans le reste du film, en fait, cette idée que cette destruction est en même temps une création, sans qu'on l'on comprenne bien le lien qu'il y a entre l'autodestruction de cette espèce et un réflexe de création par rapport à la planète. Et le film lui-même, bien sûr, ne répond pas réellement à la question. De toute façon, c'est un film qui, à la base, part d'une question sur un plan d'un premier film. Donc on est vraiment dans cette idée de mystère. Avant de passer aux choses comme la boucle, etc., j'avais envie de demander, parce que c'est vrai que je l'ai introduit comme ça, pour un astrophysicien, est-ce qu'effectivement, la question de l'origine, sur un mode éventuellement philosophique ou autre, à quel moment elle se pose, quand on observe ? Est-ce que se pose d'emblée, et est-ce que ça fait partie d'une des premières motivations pour aller explorer ces confins-là, ou est-ce que c'est en étudiant cette chose-là que de nombreux astrophysiciens y viennent ?
Alors je dirais qu'en astrophysique, on observe des objets qui sont de plus en plus lointains, au fil des instruments de plus en plus performants, disons, et que ces objets de plus en plus lointains nous portent témoignage d'un temps qui est de plus en plus lointain dans notre passé, parce que la lumière qu'on en capte, qui se déplace très vite, la lumière qui fait quand même 300 000 km par seconde, elle met un certain temps qui peut être très long si elle vient d'objets très lointains. Très long, ça se chiffre en années, en dizaines d'années, si on est assez proche de la Terre en réalité. par comparaison, quand même, le temps que la lumière met pour venir de la Lune, c'est une seconde, et à peu près 500 secondes pour venir du Soleil. Et là, on parle d'objets des étoiles qui mettent des années, la lumière met des années à nous parvenir. Et si je parle de galaxies extérieures à la nôtre, ça se chiffre en millions, en centaines de millions, et même pour les plus lointaines, en 10 milliards d'années. Et puis, la lumière la plus lointaine, enfin la plus ancienne qu'on capte sur Terre, elle a 13,7 milliards d'années. Et puis après, quoi ? Enfin, ou plutôt, et avant quoi ? Avant cette lumière, c'est qu'il y a un événement particulier dans l'histoire de l'univers où la matière de l'univers est devenue transparente à la lumière, alors qu'avant, elle était opaque. L'univers était trop chaud, trop dense, pour que la lumière puisse s'y propager librement. Là, dans l'air de cette pièce, je peux voir le fin fond, la Amazing Science, je le vois très bien d'ici, parce que l'air est transparent. Il faut imaginer, vous êtes dans un brouillard, maintenant vous mettez un brouillard dans cette pièce, un brouillard dense, ça arrive à Nantes, moi sur le plateau de Saclay où je travaille, ça arrive assez régulièrement aussi. Et quand vous êtes dans le brouillard, votre horizon, la distance à laquelle votre regard porte est beaucoup plus petite, peut-être que quelques mètres, parce que la lumière est diffusée par les gouttelettes d'eau du brouillard. Et donc il faut imaginer une époque très ancienne dans l'univers où il y avait, c'était pas des gouttelettes d'eau évidemment, c'était une matière beaucoup plus chaude, beaucoup plus dense que maintenant, pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de planètes, pas d'humains, pas de rien du tout, sous forme de ce qu'on appelle un plasma, et ce plasma était opaque à la lumière. Donc toute lumière émise avant cette époque ne nous parvient pas parce qu'elle est dans une région de brouillard, disons. Et donc évidemment ça pose la question, on voit jusqu'à une certaine distance, mais c'est comme dans le brouillard, vous êtes dans le brouillard, vous regardez autour de vous, et ce n'est pas un problème d'origine, c'est un problème de qu'est-ce qu'il y a au-delà du brouillard, qu'est-ce qu'il y a dans le brouillard que vous ne voyez pas, parce que la lumière, aucune image, aucune lumière ne vous en parvient. Donc cette quête-là, elle s'est faite incrémentalement. On a les instruments ont permis de voir des objets de plus en plus lointains, de voir des objets de plus en plus faibles, évidemment. Les instruments, ils sont capables, les grands télescopes sont capables de capter des objets infiniment plus faibles que ce que nous voyons avec nos yeux. Et donc la question de l'origine, entre guillemets, elle se pose d'une façon un peu curieuse, et on fait une sorte d'enquête en remontant dans le temps, en voyant des objets de plus en plus lointains, parce qu'ils sont souvent de plus en plus faibles, donc il faut des moyens techniques de plus en plus performants. Et cette remontée dans le temps, à un moment donné, s'arrête, en tout cas en observation directe, s'arrête par ce brouillard cosmologique, ce brouillard cosmique qu'on appelle l'horizon cosmologique, qu'on appelle aussi le fond diffus cosmologique. Et au-delà, vous n'avez pas d'observation directe, et ce ne sont que des calculs, que des extrapolations de ce que vous avez compris dans les époques anciennes. Hein. C'est-à-dire, vous avez fait votre enquête, vous avez le cadavre, il est là, il y a du sang autour, vous savez que c'est un gars, il a un couteau dans le dos. Vous remontez, il y a des traces de pas, il a dû venir de là, il y a des traces d'autres pas, il y a un type qui a dû venir de là-bas. Et vous remontez dans le temps, et puis à un moment donné, vous attendez d'être réduit à conjecture. Donc cette enquête-là, vous pouvez la remonter directement pendant un certain temps, 13,7 milliards d'années, et au-delà de ce temps, la remontée se fait par le calcul et donc par l'extrapolation. Et l'extrapolation, voilà le point, l'extrapolation, elle aboutit à ce qu'on appelle en physique une singularité, à un endroit singulier, un endroit où la densité d'énergie, la densité de matière tend vers l'infini. Et cet endroit, on ne l'appelle pas, c'est quelque chose que la physique ne peut pas décrire, enfin on ne l'appelle pas, on l'appelle le Big Bang. Mais on ne peut pas en dire grand-chose de plus que c'est une extrapolation et il faudrait améliorer nos moyens d'observation, améliorer nos théories, améliorer nos idées, trouver de nouvelles idées pour décrire ces époques-là. Donc voilà, on est dans une phase où ce n'est pas vraiment une origine au sens où on peut dire voilà, là ça a commencé. Non, c'est l'extrapolation de notre description de l'univers que nous observons jusqu'à cet horizon cosmologique nous fait dire il y a quelque chose de bizarre, il y a un truc qu'on ne comprend pas en fait en détail, en réalité dans des époques plus anciennes. Donc c'est vraiment un horizon intellectuel, là, pour le coup, et plus un horizon physique au sens un brouillard, ou quelque chose comme un brouillard qui vous gêne.
Moi qui espère avoir une réponse, je vais faire comme dans Prométhéeus, le créateur ne m'a pas répondu, je vais aller boire.
Oui, alors ça
serait très décevant.
Pour aller voir là-bas, ce n'est pas facile, parce qu'il faut effectivement franchir des distances qui sont considérables. On ne peut y aller voir que par la lumière, essentiellement, pour l'instant. Il y a peut-être d'autres signaux qu'on espère détecter un jour, des neutrinos, ça ne sera pas facile. Si on était capable de voir en neutrinos, ce sont des particules qui interagissent très peu avec la matière, on est capable de détecter des neutrinos qui viennent du centre du Soleil, qui sont émis par les réactions de fusion nucléaire au centre du Soleil. On est capable de détecter des neutrinos une fois, les neutrinos qui ont marqué l'explosion d'une étoile, qu'on appelle une supernova, en 1987, on a détecté 12 neutrinos, pas 523, 12 neutrinos sur, je ne sais plus le nom, mais c'est des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards qui ont été émis par la supernova, à une distance considérable. Peut-être un jour on sera capable de détecter ces neutrinos qu'on appelle cosmologiques. Bon, pour l'instant c'est pas fait. Si on savait le faire, ça repousserait d'autant le brouillard. On aurait plus lointain.
Hein, 12 neutrinos.
12 neutrinos de la supernova. D'accord. De cette supernova. Pour le Soleil, on en détecte plusieurs dizaines par jour. Mais plusieurs dizaines par jour, mais il faut se rendre compte que les neutrinos qui sont produits au centre du Soleil par ces réactions de fusion thermonucléaire sur 1 cm², donc la surface d'un ongle de pouce, hein, il en passe chaque seconde 65 milliards. Et on en détecte 10 ou 20 par jour. Donc vous voyez, ils ne sont pas faciles à voir. C'est pas facile à attraper un neutrino. Voilà, c'est pas facile à attraper. Donc si un jour on sait les attraper, ces neutrinos cosmologiques, ça repoussera notre horizon lumineux à un passé plus lointain encore.
Oui, je comprends pourquoi le cinéma trouve des solutions
oui.
pour aborder la
oui,
question.
Oui, le cinéma, il faut qu'il joue avec ça, parce que sinon, il a un peu de mal. Quoi.
Oui, voilà. Ouais.
Non. Et il y a dans 2001, il y a cet aspect, il y a un moment donné, un aspect lumineux, ben, ouais. qui est d'ailleurs les Odyssées, enfin, vous êtes en reparler, hein, mais donc il y a cet aspect lumineux où on plonge dans quelque chose qui converge et on a l'impression ben, là, d'aller vers une singularité, vers un point, et comme dans un tunnel finalement, qui représente une forme de lumière. Donc le cinéma, évidemment, il sait des images, il est obligé de trouver des représentations qui sont évidemment imparfaites, mais les représentations que les scientifiques proposent ne sont pas parfaites non plus. Hein. Enfin, elles sont pas faciles non plus à m'adouer, à comprendre. Donc, le cinéma, il est obligé de créer des images pour ça. Oui. Et là, l'installation, elle est sympa aussi. Enfin, voilà, c'est une représentation possible. Bon, ça peut évoquer, ça peut être une évocation de ces phénomènes.
Merci. Je m'en remets des 12 neutrinos. Hein. On va recoller. On a donc, j'ai une chose et puis je vais vous donner la parole après. On a plusieurs, quand on parle de l'origine de l'humanité, on a effectivement certains films, on a des séries de films en science-fiction qui vont se poser directement à la question de l'origine à cette échelle-là. Donc on a borné ici notre réflexion entre 2001 et Prometheus, mais où là on est sur un mode, dans 2001, comme on disait, on est sur un mode presque astrophysique. On a un mode d'exploration des confins et de réflexion. Dans Prometheus, on a déjà changé d'époque, on est vraiment une réflexion sur l'origine de notre espèce. Au niveau génétique, on a changé de paradigme. Et entre les deux, pour reprendre quand même un des grands cycles de science-fiction, il n'y en a pas eu tant que ça, on a évidemment tous les films de la planète des singes, où effectivement, en projetant dans l'avenir, on va avoir une réflexion sur notre propre origine, qu'on va reprojeter, refantasmer en la modulant. Donc ça, c'est un premier aspect sur lequel je vais vous demander aussi de réagir. Et puis, une autre modalité qu'on a aussi dans la question de l'origine en science-fiction, on va retrouver cette idée de la boucle, c'est que finalement, relativement peu de films vont se poser la question sur l'espèce ou sur l'humanité entière. Par contre, cette question de l'origine va se retrouver énormément, mais simplement à travers des personnages, ce qui va permettre aussi pour un film de rendre la problématique finalement plus facile à aborder, simplement par identification. Et on a énormément cette question qui va se donner à partir de clones, qui eux-mêmes se posent la question de leur origine, et à travers ces personnages-là, nous interrogent sur notre propre rapport à notre créateur et notre origine. Et c'est un thème qui notamment a été abordé par Marc Caro, notamment je pense à La Cité des Enfants Perdus, où on a effectivement de manière prégnante tout au long du film cette question de l'origine, cette question de l'original dans un monde complètement décalé du nôtre.
Ben, je pense que tout être humain, même déjà très très tôt, à un moment se pose la question de d'où venons-nous, quoi. C'est là une genre de question métaphysique fondamentale. Donc c'est un peu ce que se posent comme question les personnages de clones dans La Cité des Enfants Perdus, avec en plus ce genre de compétition, de savoir qui a été le premier, voilà. Donc c'est quelque chose de très très humain. Moi, ce que je voulais faire, c'est de rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit. C'est vrai que il y a une genre de différence entre 2001 et Prometheus, où c'est vrai que il y a déjà un aspect anthropomorphique, moi, qui m'a quand même assez gêné. Les créateurs, ce sont des gens de surhommes. Voilà, c'est eux qui viennent créer l'humanité, tout ça. Il n'y avait quand même pas du tout cette problématique-là dans 2001. Hein. C'est un aspect beaucoup plus abstrait. Et toute la dérive un petit peu créationniste que j'ai ressentie, moi, dans Prometheus, m'a profondément quand même déplu, quoi. Hein.
Et
Donc après, on peut toujours se poser la question de l'œuf et de la poule. Hein. Au bout d'un moment, on va un peu justement boucler, comme vous disiez. Quoi.
Moi, j'avais envie de dire à cette question-là, mais pourquoi pas. Je vais demander aux gens qui sont autour de moi ce qu'ils ont compris de Prometheus. À 10h du matin, je vous demande ce que vous avez compris
de Prometheus. Là, je peux répondre. Ah. C'est le pire film de science-fiction des 20 dernières années, sans aucun doute.
Il fallait que ce soit. Ah non, mais il fallait que ce soit dit. Hein. Après, je veux bien entendre pourquoi.
Alors, pourquoi rien ne tient dans le scénario. Il y a des trous épouvantables. Ce qui était intéressant, c'était le personnage de ce robot qui, justement, savoir s'il est humain, pas humain, proche des humains, etc. Bon, c'est Hollywood, on en fait un tueur en série, on en fait un fou, un psychopathe. Le coup du père dans le caisson et tout, c'est d'un ridicule fini. Le poulpe qui sort du ventre de la fille, c'est d'un ridicule fini. La blonde qui court en ligne droite, alors que le vaisseau tombe, elle va pas à droite, elle va pas à gauche. Non, c'est une blonde, elle court en ligne droite. C'est d'un ridicule fini. Et tout le film est comme ça et ça dure 2 heures. Mais sérieux, c'est pas possible. Enfin...
Alors moi, ce qui m'a le plus étonné dedans, c'est que elle a essayé de refaire, comme dans son premier film, qui moi je trouve un film vraiment extraordinaire, et il y a un truc qui est vraiment très très bizarre, c'est quand on regarde le premier film, il y a des personnages, et chacun des personnages, on les comprend, on comprend leur motivation, on sait quelle est leur psychologie, et ils sont super bien décrits, il y a une vraie humanité, même dans le robot, même dans des choses comme ça. Là, le robot est intéressant dans Prometheus, mais tous les autres personnages n'ont absolument aucune existence psychologique et aucune crédibilité. Et je me suis vraiment demandé comment un grand cinéaste qui a une expérience quand même énorme comme Ridley Scott a pu basculer comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai ressenti ces genres de trous dans le scénario. Et je me suis dit, mais j'avais l'impression de voir un film qui a été remonté et où on a coupé des bouts, quoi.
Mais ils ont coupé des bouts, c'est sûr. Ouais. Mais pour revenir à Alien, hein, c'est Alien. Ouais. Alien, c'était vraiment une révolution en science-fiction parce que je pense, enfin, je crois pas me tromper, mais c'est la première fois qu'on voit des ouvriers dans l'espace, des gens qui gagnent pas bien beaucoup d'argent, qui ont pas leur prime, qui discutent de leur prime, discutent. Le vaisseau est rouillé, il est pas en très bon état. Voilà. Bon, c'est vrai que c'était un choc, et puis c'était un choc de les voir en fait comme un équipage de cargo sur une mer de chez nous, quoi. Ils sont là au mess, ils mangent ensemble, voilà. Ils discutent. Alors la prime, on n'a pas la prime. Ça fait longtemps qu'on est loin de chez nous. Mmh. On était très proches de ces gens-là. Mmh. Enfin, moi, je... Et puis, il y avait le... C'est vrai que dans Alien, il y a quelque chose qui est très, très fort. C'est le parasite, ce qui pousse à l'intérieur de vous, que vous ne voyez pas, qui grossit, qui va sortir. Et alors là, il sort... C'est aussi une des premières fois au cinéma où on voit quelque chose sortir d'un corps humain comme ça. Et c'est vrai que pour l'époque, c'était traumatisant, quoi.
Oui, parce que c'est bizarre, c'est que dans Prometheus, ils parlent aussi un peu de leur prime et tout ça, mais ça ne fonctionne pas du tout comme dans le... Ils en parlent, il y a beaucoup de parlottes, ils parlent beaucoup, ils expliquent beaucoup, mais dans l'autre, pour la crédibilité venait peut-être plus du fait qu'ils agissaient. Chacun avait une fonction, chacun était en train de faire quelque chose, et ça, on comprenait vraiment ce qu'ils étaient, plus que quand, voilà, je suis ceci, je suis cela, et patati et patata.
Mais Prometheus, c'est intéressant, c'est on fait une mission spatiale, et on prend le pire géologue qui existe, un capitaine qui en a rien à foutre, enfin, c'est vraiment... on va mettre des milliards de dollars pour envoyer des pieds nickelés dans l'espace. Ouais, bravo, les gars.
Oui, je sais pas si... Non. Pour revenir à Alien, il y a un autre aspect, bien sûr, hein, mais il est bien connu, c'est ce qui est devenu un des traits du cinéma de science-fiction contemporain, c'est cette hybridité générique aussi, parce qu'il y a évidemment toute cette dimension réaliste dans l'équipage et les préoccupations de l'équipage, etc. Mais il y a aussi quand même une mise en scène qui est plutôt du côté de l'inquiétante étrangeté, voire du fantastique ou de l'horreur. Enfin bon, il y a un mélange quand même assez frappant entre des éléments science-fictionnels et des éléments qui relèvent presque d'une sorte de gothique, entre guillemets, dans l'espace. Bon, et notamment tout ce qui concerne le rapport entre le champ et le hors-champ, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, la créature qui se manifeste par exemple par des traces de on dit goût en anglais, hein, mais en équivalent d'une espèce de bave. Et donc c'est la bave qui permet de détecter, mais pour le spectateur, que la créature est juste au-dessus du personnage et va fondre sur lui, effectivement. Il y a la scène qui a, je pense, choqué tout le monde, enfin, qui a frappé tout le monde, c'est ce qu'on appelle le facehugger, c'est-à-dire la créature qui se colle littéralement sur le casque. Il y a des choses absolument terrifiantes.
Le liquide, le sang qui est acide, c'était vraiment...
Oui, tout à fait, le sang acide.
traversent ces planchers les uns après les autres. Ça, enfin, ça nourrit
l'imaginaire. Même la bouche de l'alien. Hein,
la bouche de l'alien, alors ça, ça, il faut rendre hommage.
Des symboliques assez fortes.
Oui, il faut rendre hommage à Giger. Ouais. Voilà. Giger est quand même.
Je pense que la grande force du premier film a été d'aller chercher un véritable créateur visuel, qui était Giger, qui a créé vraiment un univers. Qui est maintenant là juste réexploité hein, dans Prometheus. Il n'y a pas eu, je pense pas qu'ils
mais
soient intervenus.
Mais dans Prometheus, c'est presque ce qu'il y a de mieux, c'est l'univers visuel, je trouve.
Oui, tout à fait. Oui.
J'allais dire pour simplement par rapport, je suis tout à fait d'accord avec le constat hein, que c'est effectivement un film très décevant, surtout de la part de Ridley Scott. Et on peut se demander pourquoi il a pris un scénariste comme ça et qu'il n'a pas. En général, les studios hollywoodiens, enfin depuis le début du cinéma, les moyens de prendre plusieurs scénaristes, de vérifier leur travail. Etc. Là, on a l'impression qu'on lui a laissé la bride sur le cou, qu'il a fait un peu n'importe quoi.
Il a pris le scénariste de Lost, tout est
dit. Oui, c'est ça. Il a pris le scénariste de Lost. Voilà. Il a pris le scénariste de Lost. Mais donc, justement, alors ça, pour un film qui a une ambition, parce que c'est quand même, comme tu disais, un des rares films qui se pose cette question frontalement de l'origine. On aurait pu attendre autre chose. Bon, pour l'homme humanoïde au début, le géant humanoïde, enfin humain, je pense que ça renvoie bien sûr à Prométhée, au Titan, hein, donc c'est d'où l'aspect humanoïde, je pense. Bon, moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement le côté. Alors, je ne vais pas dire de bêtises à côté d'un scientifique comme Roland Lehoucq, mais les scientifiques sont absolument pas crédibles. Enfin, en un seul instant. Non, mais vraiment c'est un point extrême. C'est-à-dire notamment la phrase la plus stupide. Peut-être du film, c'est quand l'un des scientifiques, l'homme, donc parce que c'est un couple hein, scientifique, forcément, il faut un équilibre, etc. Soyons politiquement corrects. Il dit je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais j'y crois. Hein, donc l'idée de la croyance, c'est absolument incroyable. Enfin, si j'ose dire, tu parlais de créationnisme. L'argument scientifique basé sur la foi, c'est absolument terrible. Non,
et surtout, c'est pire que ça, c'est-à-dire que. Quand la fille scientifique fait la présentation au groupe de scientifiques, ils sont là, ils savent pas pourquoi. Ça, c'était un point important. C'est-à-dire, ils ont fait 2 ans de voyage en vaisseau interstellaire, ils ont fait 30 années-lumière. Merde, quoi. Ils savent pas pourquoi ils sont montés dans le vaisseau. La paye devait être bonne, quoi, pour qu'ils soient d'accord pour monter sans raison apparente. Ouais. Et c'est là où elle explique son plan. Et il y a le biologiste, quand même, qui est un peu neuneux, mais qui réagit, qui dit. Oui, mais quand même, votre truc, là, ça met en doute toute la vision de darwinisme.
Oui, tout à fait.
Elle dit, oui, mais moi, j'ai choisi d'y croire.
Oui, c'est ça, voilà.
Fin du débat. Ouais. L'autre dit pas, vous êtes complètement taré, j'aurais jamais dû monter dans ce vaisseau, je rends ma prime et je prends immédiatement une navette de secours. Non, les gars, ils restent là, ils disent, bon, très bien. Bon,
enfin, j'ai une question pour l'astrophysicien.
C'est vrai que les scientifiques ne sont pas très crédibles, mais pas du tout. C'est-à-dire, les scientifiques sont généralement toujours un peu caricaturaux dans les films de science-fiction. Si on prend par exemple un autre film dont on peut discuter, qui est Sunshine, dans un registre complètement différent, là, parce qu'il y a un héros qui est un physicien quand même. Le héros, Capra, est un physicien. Il est assez caricatural comme physicien, mais c'est toujours un peu comme ça. Mais là, c'est vraiment, c'est même pas des scientifiques à aucun degré. Enfin, il n'y a même pas. Si on les montre, ça ne peut pas être des scientifiques. Quoi,
le biologiste, en plus, il est là, il a peur, ils veulent se barrer, tout ça. Dès qu'il y a une genre de bestiole.
Et puis, il dit guili-guili, c'est un biologiste, le gars, il arrive devant n'importe quelle bestiole inconnue, il dit guili-guili. Non, attends, faut arrêter, quoi. Même moi, je ne fais pas ça, quoi. Même les dingues dans Alien, ils allaient chercher leur chat, ça m'énervait. Je dis, mais c'est con, ils vont chercher le chat, les autres ont disparu, ils continuent, ils sont fous. Là, c'est encore pire, quoi.
Dis-moi. Ouais, j'avais une question, c'est est-ce que si mon fils fait 5 dessins de boules sur un mur, tu peux retrouver une planète ?
Non, alors ça, oui. Ça, c'est un article, je suis en train de préparer justement avec un copain qui est paléontologue, pour la prochaine édition de Bifrost. On a justement, j'ai vu Prometheus en me disant, ah, oh, c'est super au cinéma, je ressors. J'ai poussé le vice jusqu'à acheter le DVD pour en faire une analyse complète, pour regarder image par image tout ce qui ne va pas dans la science. Et donc, dans le prochain Bifrost, il y aura plein de choses là-dessus. Avec donc ce copain biologiste, parce que moi je sais des choses en biologie, mais enfin je suis pas biologiste professionnel. Et donc effectivement, si tu fais 5 boules sur un truc, t'es mort, quoi. Je veux dire, des machins qui ont une forme en 5 boules telles qu'ils les dessinent dans la galaxie, il y en a plein, quoi. Et puis une fois qu'on en a trouvé les pleins, ben on est foutu. Il faut voir les informations sur chacun. Enfin, c'est juste, ça marche pas du tout. Et en plus, c'est pas 5 boules, c'est 5 boules avec des civilisations qui sont séparées par des milliers d'années, quoi. Faut savoir, comme dans la galaxie, les étoiles elles se déplacent. Donc si même les gars du néolithique ou même pré-néolithique, parce qu'il y a des dessins qui remontent à l'époque Cro-Magnon, quoi, des dessins dans les cavernes au début dans l'Écosse. Je rappelle quand même qu'à l'époque, l'Écosse était sous l'Inland 6 de la période glaciaire du Vurmien, donc il y avait 500 mètres de glace qui recouvrait les cavernes où les mecs ont fait les dessins. Donc bon, ça c'est un autre problème. Mais donc ils ont fait leurs dessins, donc c'était il y a, mettons, moins 30 000 ans, Et puis, moins 3000 ans, il y a des Babyloniens qui ont fait des dessins les mêmes. Et puis, il y a 200 ans, les Hittites ont fait des trucs. Bon, il y a moins 200. Donc, il y a des dizaines de milliers d'années qui séparent ce dessin et c'est le même dessin. Sauf qu'il faut quand même faire attention. Hein, la Terre, le Soleil bouge dans la galaxie, les étoiles bougent dans la galaxie. Alors, en 30 000 ans, ça peut bouger assez peu parce que la galaxie, les étoiles, le Soleil met 250 millions d'années pour faire le tour de la galaxie à l'endroit où il est. Les étoiles plus proches mettent moins de temps, les plus lointaines plus de temps. Mais 30 000 ans, ça fait du mouvement, surtout qu'on est dans un rayon qui est proche du Soleil. Et donc les positions, les positions relatives ont complètement changé, enfin peuvent avoir changé significativement. Donc bon, non, ça ne marchera pas. Même si c'est ton fils qui réfléchit beaucoup, ça ne marchera pas. Ou à l'inverse, plus exactement, s'il fait un dessin avec 5 points sur une feuille, on va trouver plein de solutions. Hein, c'est ça. Il peut dire... Avec certitude, il y a 5 étoiles positionnées comme ça dans la galaxie, parce qu'il y en a tellement, il y a 150 milliards d'étoiles. Bon, il y a une bonne chance, disons, qu'on trouve 5 étoiles positionnées comme il les a dessinées. Donc on pourrait dire, et à ce moment-là, ton fils est un visionnaire. Il a vu cette structure dans la galaxie.
Puis il a choisi d'y croire.
Et il a choisi d'y croire.
Voilà. Il a choisi d'y croire.
Ah oui, ça c'est le plus important. Il a choisi d'y croire. Et ensuite, il va demander à son père, qui est richissime, de lui payer un voyage à pas des milliards de dollars. C'est les estimations d'un voyage comme ça. C'est, je sais pas, mais ça se chiffre plutôt en millions de milliards de dollars, je pense. Hein. Donc c'est le PNB de la planète pendant, je sais pas, 10 ou 20 ans. Donc c'est pas facile.
Mais c'est vrai qu'avec Prométhée, on a tous ressenti cette espèce de décalage en voyant Prometheus. Mais pour moi, c'est vraiment un film qui souffre d'une maladie assez fréquente actuellement au cinéma. J'appelle, moi, la préquelle postmoderne. L'idée, c'est qu'on a Ridley Scott qui revient... Ouais, je sors les étiquettes, après je vais expliquer. Et en fait, il revient donc à la science-fiction après extrêmement longtemps. Et il se trouve que ses débuts dans la science-fiction sont hyper marquants, vu qu'il pose les bases de la science-fiction noire, d'une science-fiction justement beaucoup plus réaliste, plus immersive. Et... avec Alien en partie, mais surtout avec Blade Runner, il pose déjà un débat philosophique qui va asseoir le côté sérieux et fascinant de son récit. Et là, il revient après des années, donc forcément, c'est Ridley Scott. Il faut qu'il fasse de la SF noire. Donc il faut de la SF réaliste, il faut qu'il y ait une question philosophique sous-jacente, sinon c'est pas sérieux, c'est pas un grand film de science-fiction. Et on est dans cette espèce de maladie, comme j'ai de la préquelle postmoderne, où on va expliquer ce qui se passe avant. Donc on a un mode science-fictionnel, donc il faut qu'il y ait un lien logique, on puisse reconstruire la chaîne d'événements entre ce qu'on va voir dans Prometheus et ce qui s'est passé dans Alien. Mais en même temps, on est quand même dans de la science-fiction au cinéma, donc il ne faudrait pas aborder ça sans avoir une grande allégorie mythique qui reprend une mythologie qu'on connaît bien, donc c'est Prométhée. Hein, on va en prendre un peu obscur, pas trop connu, histoire que vous pourrez être sûr que les gens connaissent. Et en même temps, quand je disais préquel postmoderne, l'idée c'est non seulement de faire donc, ce qui s'est passé avant, mais c'est aussi de faire un semi-remake du film original. Et il y a beaucoup des incohérences totales qu'on a effectivement dans Prometheus qui sont liées à une volonté de refaire les mêmes scènes marquantes que dans Alien. Il faut que l'androïde soit un traître. On ne sait pas pourquoi il infecte le scientifique, mis à part merci, parce qu'il est totalement insupportable, donc c'est quand même assez gentil de nous en débarrasser.
Ce que c'est de la justice divine, là, quand même. Hein.
Oui. On ne sait absolument pas pourquoi, mais alors on peut évidemment, sur un mode science-fictionnel, on peut se dire « Ah, mais peut-être qu'il fait un test pour Weyland, est-ce qu'on peut sauver quelqu'un en lui injectant le black goo ?» Et donc il lui met du black goo. Et ça tombe bien parce qu'il ensemence. Génial. Et il ensemence, qui donne une scène complètement hallucinante aussi. J'adore la scène où elle rentre dans le caisson pour se l'enlever elle-même. Cette espèce de scène à la Ripley. Je trouve que cinématographiquement, ça marche hyper bien. Par contre, la scène d'avant, donc on a une espèce de complot qui se noue autour d'elle avec l'androïde qui l'enlève, qui veut la cryogéniser. Donc on a ces images atroces des différents aliens qui nous viennent. Elle s'auto-avorte dans une machine à quelques millions de dollars et juste après, elle retourne dans la pièce voir l'androïde comme si rien n'était. Aucun problème.
Et elle court.
Et elle court. Elle court. Mais la médecine est bien plus avancée. Hein.
Là, c'est pas un problème de médecine. C'est un problème de quand on a sectionné une fibre musculaire, on la recolle pas comme ça. Enfin, on la recolle pour que ça tienne, que vous pissiez pas le sang, que ça, les viscères ne sortent pas. Mais ça fait pas des muscles fonctionnels instantanément. Hein.
J'aime bien la scène, alors j'ai choisi.
Il y a un problème quand même de.
Alors, moi, il y a une autre question que j'aimerais bien poser à un biologiste. Je voudrais savoir comment des gènes d'êtres humains, comme ça, avec des gouttes de je sais pas quoi, de un peu noir, voilà, mélangés à un truc de pieuvre, je sais, peuvent à la fin donner un insecte. Parce qu'à la fin, elle donne naissance à Alien, on le voit, le bébé à la fin.
Alors, c'est américain.
J'aimerais bien que. Ouais,
c'est un super mutant, c'est un super mutagène. Mais de toute façon, au début, la façon qu'ils ont d'ensemencer la planète avec leur. Il y a un gars qui doit se suicider pour ça, mais enfin, il y a une nouvelle qui était vachement plus marrante, où il y a je ne sais plus qui, mais vous allez me redire ça, parce que la mémoire de l'auteur m'échappe. Mais en gros, il y a deux personnages, on ne sait pas s'ils sont des humains ou quoi, ils sont devant une planète, elle dit « elle est vraiment super cette planète », ils sont devant une plage, il y a une mer géniale, il dit elle est super, c'est dommage qu'il n'y ait personne, ouais t'as raison, allez on se casse. Il y en a un qui crache dans la mer en partant, il remonte dans l'autre vaisseau, il part et on comprend que la planète c'était la Terre. Enfin, ça va devenir la Terre avec ses habitants, et que le fait que le personnage ait craché dedans, c'est ça qui c'est suffisant pour envoyer de l'ADN sur la planète. Si tu craches dedans, enfin, pour faire un prélèvement d'ADN, on ne demande pas au gars de se suicider, on fait un petit prélèvement. Enfin, vous voyez, dans les polices scientifiques, ils ont un petit bâton de coton-tige, ils prennent rien de truc, quoi. Et puis il y en a assez d'ADN là-dedans pour faire des trucs, hein. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête à se suicider, à se décomposer. Enfin bref, c'est un peu brutal comme méthode.
Ce serait un peu moins cinématographique.
Oui, mais enfin, une mec qui crache dedans, c'est comme assez. Bon, ça fait un peu faible peut-être.
C'est cracher dans la soupe originelle.
Je pense.
C'est cracher dans la soupe originelle, c'est exactement.
Mais il faut du spectaculaire. Donc.
Très sincèrement, je pense que Prometheus a une autre maladie, c'est l'argent. C'est le budget colossal qui fait que d'un seul coup, faire un film pour tout le monde. Enfin, on voit que ça donne des machines, je sais pas comment dire, complètement bancales, à force de mettre tellement d'argent. Ce qui m'intéresse dans le cinéma, et notamment en science-fiction, c'est souvent les petits films où il y a une contrainte, genre Cube, où il y a juste une pièce, et on fait un film avec cette pièce-là, où on oblige le réalisateur à réfléchir. Il y a eu Primer qui a coûté pas cher, il y en a plein comme ça. Et c'est vrai que dans un budget beaucoup plus moindre que Prometheus, je trouve que Altered State de Ken Russell est beaucoup plus intéressant.
Moi je sais pas, mais non, mais justement, moi j'ai quand même. Il n'y a pas tant de films que ça, enfin, par ce que tu as cité, on va peut-être y revenir. On n'a pas du tout parlé de La Planète des Singes, et c'est vrai que c'est quand même un cycle important de 6 films maintenant. Mais bon, pour rebondir là-dessus, moi j'ai pensé à Altered States, donc Ken Russell, qui a fait des choses extraordinaires et aussi des choses assez médiocres. Et c'est un film effectivement qui. Altered du réel, pardon, qui est donc une expérience d'un scientifique qui va s'injecter des substances qu'il a trouvées pour dire rapidement les choses au Mexique, des substances hallucinogènes qui s'enferment dans un caisson et qui donc justement se retrouve dans des états psychique, mais aussi physique, différent, au point de, sans faire de spoiler, sans dévoiler la fin du film, mais je spoil pas la fin, mais disons qu'il subit des métamorphoses qui le renvoient justement aux origines. Donc effectivement, on est vraiment dans le sujet là. Et après, c'est vrai que les effets spéciaux sont un peu rudimentaires à certains égards, mais c'est quand même nettement plus convaincant effectivement que.
Il y avait Brainstorm de Douglas Trumbull aussi,
oui, tout à
qui
fait.
Était très intéressant. Il y a eu quand même plein de films à une époque dans les années 70 qui traitaient ce sujet-là ou des sujets connexes très proches.
Oui. Alors dans le genre sujet qu'on est, je me permettre, parce que la scène dont on parle, il me semble qu'elle a été un petit peu piquée dans un autre film qui n'est pas si connu que ça, enfin qui maintenant est moins connu peut-être des années 70, qui est L'âge de cristal de Joshua Logan, où il y a aussi un personnage qui se trouve sur une table d'opération sophistiquée et instantanément il est opéré par des espèces de pinces mécaniques et ça se recoue instantanément et il peut courir comme un petit lapin comme avant. Donc effectivement cette idée de la suture immédiate et imperceptible littéralement, on la trouve déjà dans des films antérieurs. Alors ce qui m'intéresse dans L'âge de cristal aussi, je pense qu'on pourrait rebondir, c'est que là on a un autre aspect de l'origine, c'est l'origine perdue. Les individus, les humains, et notamment les jeunes humains, puisque tous les personnages sont jeunes au départ, puisqu'ils doivent mourir à un âge donné, ont perdu leur origine, et le film va justement leur révéler leur origine. Donc ça, c'est un autre thème connexe, pour ça j'ai rebondi sur le terme connexe. Et il y a un certain nombre d'autres films comme ça, mais adopter frontalement la question de l'origine, il n'y en a pas tant que ça, en fait, des films. Je pense que le corpus est relativement limité.
Est-ce qu'on peut considérer que La Guerre du Feu, c'est un film sur les origines ?
C'est différent. C'est pas un film de science-fiction, véritablement. C'est un film de préhistoire, je sais pas.
C'est Ronny Aîné, l'auteur, enfin.
Oui,
il y a des liens très forts.
Je suis d'accord, mais Ronny Aîné il y a d'autres spécialistes ici de Ronny Aîné. Ronny Aîné a fait des films dans des romans dans des genres très différents. La Guerre du Feu, c'est vraiment une tentative de retrouver, de représenter une époque disparue. Bon, on a évidemment un certain nombre d'éléments scientifiques, mais c'est pas véritablement pour moi de la science-fiction. Enfin, je sais pas. Hein. En tout cas, ça serait vraiment limite, quoi. Mais cela dit, bien sûr, Ronny Aîné, lui, est un auteur important pour la science-fiction et le fantastique. Je sais pas ce que tu en penses, mais...
Sur la guerre du feu, je vais pas commencer à rentrer dedans, savoir si c'est la science-fiction ou pas, mais effectivement, on sent bien qu'on est sur un mode relativement différent, où on va nous donner l'expérience directe d'un état de l'humanité tel qu'il a été reconstruit par des scientifiques quand ils ont réfléchi à la préhistoire. Et oui, forcément, qu'en regardant la guerre du feu, on a forcément une réflexion sur notre origine, mais qui est effectivement pas du même ordre que vous pouvez avoir dans 2001, où là, on a vraiment l'idée de ce parcours. On a une réflexion sur la manière dont on est passé de l'animalité à l'Homo erectus à l'Homo technicus et où on va aller jusqu'à la fin de notre civilisation. Et puis avec cette question de l'énigme, je veux dire, on ne nous pose pas réellement de questions dans la guerre du feu. Alors qu'évidemment, c'est Clark, lui, va se poser effectivement la question, avoir ce dumb object au milieu, qu'est-ce que c'est que cet objet, et qui est en fait une espèce de chose sur laquelle on projette une ignorance.
Mais c'est exactement comme je vous disais, en cosmologie, on avait le problème que j'ai abordé tout à l'heure, c'est-à-dire on remonte, parce que là, quand on est à la guerre du feu, on remonte, disons, aux origines de l'humanité technique, avec le feu qui permet de faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais là, pour remonter avant, les humains, ils étaient là avant, et on a des fossiles, etc., qui nous disent qu'il y avait des humains avant qui maîtrisent le feu, et puis avant les humains, il y avait quoi? C'est toute l'évolution de la vie sur Terre, et puis... Donc voilà, c'est toujours cette remontée... En fait, ce problème d'origine, c'est pas une origine, c'est un changement, la fin d'un monde ou la fin de quelque chose qui se poursuit par autre chose. La fin des humains sans le feu, avec les humains qui maintenant ont le feu et qui vont pouvoir faire d'autres choses. Les êtres vivants terrestres qui n'étaient pas des humains, puis qui sont devenus quelque part à un moment donné ce qu'on appelle des humains, ou qui ont commencé à ressembler aux humains. Et puis après, il n'y avait pas de vie sur Terre, et puis il y a la vie sur Terre. Et puis il n'y avait pas le système solaire, et puis il y a le système solaire. Et puis il n'y avait pas l'univers. Et est-ce que c'est un sens de dire ça? Et il y a l'univers. En tout cas, il y a l'univers, et on remonte. Et là, on est dans cette ultime... origine, c'est-à-dire on n'arrive pas à reconstruire l'étape précédente finalement. Donc cette affaire d'origine, en fait c'est chaque fois, mais je pense qu'Étienne Klein il doit en parler dans une présentation bientôt, il nous en reparlera aussi sur l'origine, c'est toujours une transition entre un état d'avant et un état d'après, et on est embêté quand on n'a pas d'argument sur l'état d'avant. Et on se dit, ben, c'est Dieu, c'est le Big Bang, c'est je ne sais pas ce que vous voulez, mais enfin, c'est quelque chose, voilà, on met un truc parce que ben, on est bien embêté de ne pas avoir de réponse sur ce qui se passe avant l'état qu'on décrit.
Alors, moi, il y a un autre problème dans cette thématique-là, c'est qu'il y a aussi une histoire d'intentionnalité de l'origine de la vie, qui essaye de... Bon, alors là, c'est soit les ingénieurs qui nous ont fabriqués, ils nous expliquent toujours pas pourquoi, et il y a toujours un genre de mystère sur est-ce qu'il y a une intentionnalité, et ça, on commence effectivement... à aborder le thème de la croyance qui est développé dans Prometheus, mais qui était déjà un petit peu développé dans 2010, parce que là aussi il y a une genre de bascule, il y a un vrai mystère dans 2001 où il y a quelque chose qui génère comme ça la vie, mais dans 2010 c'est genre, on est en train de s'occuper de cette planète, dégager c'est une chasse un peu gardée quoi. Et je trouve qu'il y a un genre de ce problème de l'intentionnalité du créateur est aussi une grande problématique.
Surtout ce que montre la science, en tout cas, la science, elle n'a pas besoin d'un créateur pour rendre compte de toutes ces choses. On ne les comprend pas dans le grand détail. Évidemment, l'apparition de la vie, c'est encore quelque chose qui reste mystérieux pour les scientifiques, la façon dont ça a pu se passer. Mais il n'y a pas besoin d'invoquer, a priori, un grand créateur pour faire ça. Et donc, ça peut être effectivement un peu... Ça ne va pas dans le sens d'un grand créateur, et en même temps, on n'est toujours pas capable de décrire les processus physico-chimiques, tout ce qu'il faut, enfin bref, de décrire ça dans le grand état. Donc on est un peu dans une phase où on est à la fois, on n'en a pas besoin, et même on peut le rejeter de plein de façons, et en même temps, il n'y a pas de solution alternative. Donc du coup, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de proposition encore détaillée, suffisamment détaillée, alternative. Donc on est dans une position voilà, où il faut se contenter de son ignorance et vivre avec. Et ce n'est pas toujours facile de vivre en étant ignorant.
Tout à fait.
Mais cette idée qu'on va comme Prometheus, comme la question des origines à l'époque de l'intelligent design, je comprends les espèces d'attentes, cette espèce de problème qu'il y a ou de malaise qu'il peut y avoir par rapport à ça. Je voulais rebondir justement sur cette question de l'intentionnalité de l'origine, c'est quelque chose qu'on a effectivement dans le cinéma de science-fiction, mais souvent, comme je l'évoquais au début, ramené au niveau des personnages, avec un ensemble de scènes, énormément de films, où on va mettre en scène la création d'une espèce ou la création d'un être. Alors on l'a aussi dans Prometheus, vu qu'il n'en rate pas une, avec cette question du pourquoi m'avez-vous créé, ou, et on voulait revenir quand même, je voulais revenir et vous demander aussi sur, on a ça dans la planète des singes, avec à chaque fois, et quand on parlait de l'origine, de la transition d'un état à un autre, le point vers où tend toute l'intrigue du premier avec Charlton Heston, c'est bien, je veux dire, cette découverte de comment on est arrivé là. Comment on arrive à cette situation? Et là, ce qui est intéressant dans la planète des singes, c'est effectivement de projeter dans l'avenir un retour à notre humanité, de nous permettre de comprendre. Bon, déjà, une réflexion évidemment sur notre part d'animalité, une réflexion sur la fin du monde. Il y a effectivement cette idée qu'on va aller remonter aux singes et se comprendre nous-mêmes par la manière dont nous-mêmes on va mettre fin à notre propre civilisation et pouvoir s'observer dans un état un peu étrange où on a corporellement en fait un état antérieur, mais où on est déjà après nous, en termes de chronologie, en termes d'intelligence. Et je veux du coup vous poser la question, d'une part, de ce que vous avez pensé du dernier Planète des Singes, parce qu'en fait, quand je vous pose une question philosophique, on est dans le brouillard, quand je vous demande ce que vous pensez des films, en général, j'aime beaucoup les réponses.
Moi, je ne l'ai pas vu.
Pas vu du tout.
C'est lequel, le dernier?
Le tout dernier.
Celui avec James Franco.
Des singes, oui. Origines,
parce que là, on a deux fois les origines de la planète des singes.
Ouais. Alors, c'est marrant parce que c'est un film, je trouve, complètement déséquilibré. La première heure m'a vraiment intéressé. Ouais. J'ai trouvé plutôt très bien. Et puis, dès que ça tourne dans le cinéma américain avec des cascades, des singes qui volent sur 50 mètres et qui font tomber des hélicoptères, là, j'ai totalement décroché. Quoi. Mais toute la première partie, j'ai trouvé assez touchante et assez intéressante. J'ai presque trouvé que c'était de la science-fiction. Après, c'est n'importe quoi.
J'ai exactement le même sentiment. J'ai trouvé que ça commence à déraper à partir du moment où ça devient justement un film d'action. Quoi. Enfin, bon,
Mais c'est terrible le cinéma américain. Il faut que c'est le cas avec Le Prestige de Christopher Priest, un très bon livre qui a été adapté au cinéma par Christopher Nolan. Une gifle devient un coup de pistolet. Tout dans un livre est augmenté. Il faut que ça explose. Ils n'arrivent plus à faire de la science-fiction sans faire exploser des immeubles et des planètes entières. C'est un peu dommage.
Mais je pense que là, on touche à un des paradoxes d'explorer des grandes questions philosophiques dans le cinéma de science-fiction, alors que les budgets induisent une approche relativement grand public, et que c'est extrêmement difficile, en science-fiction plus que dans un autre genre, parce que simplement c'est plus cher, d'aller effectivement être pointu, ou de faire confiance à l'intelligence d'un spectateur, alors qu'il faut dépenser énormément pour le représenter. Ça, c'est un problème qu'on a de toute façon dans le cinéma de science-fiction. On s'achemine nous-mêmes vers la fin et je voulais quand même poser une question sur Dante 01 parce qu'on a évoqué tout à l'heure effectivement dans Prometheus ou autre le recours notamment à des mythes. On a parlé des problématiques de l'ensemencement. On a attaqué avec 2001 sur cette idée de plan psychédélique final assez mystérieux, assez cryptique mais qui vient nous boucler le film sur lui-même. Et puis on a aussi évoqué avec Prometheus l'idée que quelque part les budgets énormes qui sont alloués à des films peu intéressants auraient pu être donnés à d'autres films. Et donc c'est une question, ça fait longtemps que j'ai envie de la poser directement sur cette fin christique de Dante 01 qui forcément, après ce qu'on a évoqué là, me fait penser effectivement à pareil, une espèce d'ensemencement de l'espace, une idée de boucle, et forcément symboliquement, qui moi me renvoie à une question de l'origine à la fin.
Alors c'est pas une croix en fin de compte.
Déjà
c'est pas une croix, c'est un tessaract. Donc pour moi c'est plutôt un accès à une autre dimension. Mm-hmm. Voilà. Mais l'ensemencement...
Il n'y en a pas. Je sais pas.
Pour des questions.
Oui.
Non,
parce que j'aurais bien aimé avoir ton sentiment justement sur le dernier Planète des Singes.
Sur le dernier Planète des Singes, je vais à peu près partager ce qu'on a dit. Moi, j'ai une énorme tendresse pour l'ensemble des films, mais y compris celui-là. Déjà, je suis toujours surpris quand j'ai James Franco dans un film que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce d'a priori par rapport à l'acteur. J'aime beaucoup la réinterprétation. On est en science-fiction, on a énormément de séries de films comme ça où, quand ils sont refaits à des époques postérieures, on retrouve une adaptation en fait au paradigme scientifique ou technique de la période. Donc là, effectivement, on a, comme on disait tout à l'heure, un jeu, je veux dire, entre le personnage du père du scientifique, donc cette espèce déjà de relation personnelle, avec le père qui est en train de perdre ses origines, qui est en train de perdre sa propre histoire et de perdre sa mémoire et cette relation. Et donc la créature, en fait, le fils, qui donc essaye de sauver son créateur et surtout de continuer à exister dans l'esprit de son créateur. Je trouve assez malin l'idée de cette espèce de médicament ou de thérapie génique. Justement, je trouve ça très très malin, cette idée-là, voilà, une thérapie génique pour soigner Alzheimer, qui va justement se transformer évidemment d'un médicament à un espèce de virus Ça, c'est une idée intéressante. On a la même remise à jour dans I Am Legend. C'est la même remise à jour qu'on a au début, où c'est un médicament, c'est un traitement contre le cancer qui finalement va se répandre sur la planète entière et nous transformer en vampires. Donc on a l'adaptation aux deux, c'est-à-dire aux problématiques actuelles qu'on a, c'est-à-dire aux thérapies qu'on a en se plaçant juste quelques années en avance par rapport aux thérapies géniques. On reconnaît le caractère relativement millénariste de la période avec cette idée du virus global qui va provoquer la fin de l'humanité. Donc ça, je trouve ça très 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 malin. Moi, pareil, la première heure, je voyais un film de science-fiction et c'est rare. Donc ça faisait vraiment plaisir. Et puis effectivement, il y a un moment où faut de l'action. Alors moi, le plan où il se met à parler, j'aime beaucoup son nom. Quand il hurle le nom, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien et je trouve que le film fonctionne jusque-là. Après, bon, on est d'accord, il fallait de l'action, il fallait... Mais oui, moi je trouve que c'est une réinterprétation très intéressante et oui, on a eu un film de science-fiction et c'était pas évident. J'y suis allé, je me méfiais beaucoup. Il nous reste quelques minutes, donc j'ai envie de vous demander si vous avez envie d'ajouter quelque chose directement ou plus simplement, peut-être simplement prendre des questions. Parce qu'il y a énormément de choses, je suis sûr, qu'on n'a pas abordées, c'est évident, mais...
Bonjour, merci pour ce débat intéressant. J'avais envie de demander, à un moment donné, vous parliez vraiment des origines, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie des univers multiples? Voilà.
Moi j'aime bien, mais Roland a une vraie réponse.
Il y a deux possibilités. D'abord, on peut faire de la physique ou de l'astrophysique que sur les choses avec lesquelles on peut interagir. Ça, je vous ai la possibilité RAID, canonique, et qui, à mon avis, permet de mieux comprendre la suite. On peut comprendre que ce avec quoi on peut interagir, et donc de cette mesure-là, il y a un univers observable. Il n'y a pas un univers, il y a un univers observable. Cet univers observable, il est décrit par des équations, par des modèles mathématiques, et ces modèles mathématiques peuvent avoir des prolongements en dehors des zones qu'on n'observe pas. Et après, on peut donc parler d'un modèle qui va décrire correctement ce qu'on observe, et puis qu'il y a des prolongements dans des zones où on n'a pas d'informations. C'est ce que font les astrophysiciens quand ils vous parlent de périodes qui précèdent ce brouillard cosmique, ce brouillard cosmologique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, d'une certaine façon, il y a deux possibilités pour les choses dans l'univers, en un sens très général et pas forcément très scientifique. Il y a soit vous pouvez interagir avec, et c'est l'univers observable, soit vous ne pouvez pas interagir avec... Et c'est pas de la science. C'est pas de la science en ce sens, c'est pas tout à fait de la science, il y aurait à moduler ça un peu, c'est pas tout à fait de la science, parce que vous pouvez pas en dire grand-chose par l'observation. Néanmoins, comme je viens de dire, on arrive à parler de choses qu'on ne peut pas observer directement, parce qu'on a un modèle qui décrit ce qu'on voit, et on le prolonge, on le fait remonter dans le temps, par exemple, et on décrit des étapes que l'on ne peut pas observer directement. Mais ce prolongement, il arrive à une singularité, à ce Big Bang, qui pose aussi un certain nombre de soucis. Donc on sait que ce prolongement, il est probablement pas parfait, en tout cas, il est certainement amélioré. Donc dans ce cadre-là, les univers parallèles, les univers multiples, ils n'ont pas vraiment de sens, parce que soit vous pouvez interagir avec eux, et à ce moment-là, c'est notre univers observable, soit vous ne pouvez pas, et à ce moment-là, vous ne pouvez rien en dire. Vous pouvez en dire tout ce que vous voulez, sans crainte d'être contredit par une observation. Et donc, si vous pouvez dire ce que vous voulez sans crainte d'être contredit, c'est plus tout à fait de la science. Malgré tout, dans ce cadre d'interprétation cosmologique, où on voit une partie de l'univers, et on est capable de la décrire, disons, raisonnablement bien, par des modèles qui ont des prolongements dans des zones qu'on ne peut pas décrire, il semble qu'on ait besoin qu'on puisse introduire et que ça soit pertinent, alors que ça parle de choses avec lesquelles on ne peut pas interagir, le fait qu'il puisse y avoir plusieurs univers qui ne peuvent pas échanger entre eux, mais dont on a besoin d'une certaine façon, techniquement, pour pouvoir comprendre un point qui peut faire appel aux origines, le point qu'il semble que les constantes fondamentales de la physique, certain nombre de valeurs numériques, vis-à-vis de la lumière, la constante de structure fine, la constante de gravitation, etc., etc., la masse du proton, le rapport masse de l'électron sur masse du proton, enfin un ensemble de choses, soit ajusté finement. Si vous changez un peu ces paramètres, on les mesure, donc ils ont une valeur qu'on constate. Mais imaginons qu'on les change un peu, alors les atomes sont plus stables, alors les étoiles ne peuvent pas briller, alors l'univers ne peut pas durer 13 milliards d'années, mais dure 3 minutes, ou dure 100 milliards d'années, il n'a pas eu le temps de développer la vie, ou alors la vie est déjà éteinte. Voilà. Donc si on change un peu ces paramètres, on est dans une situation... où on se dit, l'univers ne serait pas comme on l'observe. La question se pose, mais pourquoi ces paramètres ont cette valeur ? Et il y en a qui vont vous dire, eh bien, il y a le grand architecte qui a tourné les boutons, clic, 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 pour ces paramètres, et ça a fait le bon truc. Une autre solution, c'est de se dire, non, c'est pas un grand architecte qui a tourné ça, c'est, il existe plein d'univers qui ont plein de valeurs de ces paramètres, ou qui ont plein de physique possible, et nous sommes dans l'un de ces univers, et il n'y a pas de bizarrerie, on est dans un univers qui est comme ça. C'est un peu comme si vous allez dans le nouveau hôtel à côté, vous demandez une chambre, il vous donne une chambre dont le numéro, c'est votre année de naissance. Vous dites, merde. Ça, c'est coïncidence. Hein, c'est les paramètres finement ajustés. Est-ce qu'il y a un grand créateur qui a décidé qu'il y avait un hôtel et qu'il va aller vous donner directement la personne, elle sait votre année de naissance par défaut, et hop, elle vous donne le nom. Non. Un truc qui est plus probable, c'est de se dire, cet hôtel, il a plein de chambres. Plein de chambres. Et il y a une coïncidence, peu probable, mais possible, sur lesquelles on vous attribue justement, parmi ces millions de chambres, justement celle qui a votre année de naissance comme numéro. D'accord ? Donc ça, c'est cette solution qui est choisie pour l'instant, pour éviter de façon scientifique, enfin, on reste dans un cadre scientifique, mais qui n'est plus tout à fait dans un cadre scientifique avec une observation ou une expérimentation directe, pour évacuer le problème de comment se fait-il que ces constantes soient finement ajustées, comment se fait-il qu'il y ait cette coïncidence qui ajuste les constantes à des fractions de pourcents, des fois. Hein. Ce n'est pas un ajustement, un facteur 2, hein. C'est un ajustement à des fractions de pourcents. Donc ces heures parallèles, ils ont un statut à la fois de scientifique, ça part comme d'un point scientifique, mais en même temps de science, on va dire, spéculative, de science en construction, donc avec les précautions à prendre. Voilà, c'est ce que je peux dire pas trop longuement là-dessus.
Il y a un rapport entre le black goo et la matière noire. Non, pardon, une autre question.
Le black goo et la matière noire. La matière noire, c'est le black goo.
Bonjour, je voulais savoir si vous avez lu les cycles de Baxter. Il me semble que ça s'appelle Évolution, où il trace l'origine de l'humanité en partant des premiers mammifères qui ont existé sur la planète Terre et jusqu'à maintenant et au proche futur. Je trouvais que c'est une approche qui était assez réaliste de la part de cet auteur de science-fiction. Est-ce que vous l'avez lu, Baxter ?
Oui, j'ai pas fini le cycle, mais c'est une des grandes forces de Baxter, effectivement, d'être capable de personnifier, de mettre justement en récit des choses, même au niveau, je veux dire, des cellules, etc. Je trouve que c'est un cycle absolument fascinant. Absolument fascinant. Et on se prend à lire le cycle, à imaginer ce que ça pourrait donner au cinéma. C'est assez étonnant. On pourrait avoir le personnage principal est une paramécie.
C'est pas facile. Les paramécies, c'est pas facile de discuter avec elles, faut reconnaître. Mais bon.
Mais ouais, c'est un tour de force incroyable.
Bonjour. Alors, en fait, j'aurais une remarque. D'abord, en fait, sur la planète des singes, on peut penser que du point de vue des singes, ils sont en fait, ils ont des créateurs, puisque leur point de vue, c'est leur évolution est créationniste, puisque ils partent d'un texte que leur ont laissé des hommes, mais ils croient, ils ont même une science parce qu'ils ont des médecins. Et bon, ils ont une certaine assurance d'eux-mêmes, mais finalement, leur civilisation, elle n'est pas née d'eux, quoi. Bon, voilà, c'était juste une remarque. Enfin, peut-être que vous penserez quelque chose là-dessus. Et je voudrais aussi poser une question. Est-ce qu'il existe des films ou alors des romans qui donneraient comme type de création d'origine des phénomène de remontée dans le temps, c'est-à-dire, j'avais lu ça quelque part, mais je ne sais pas de qui c'est. C'est-à-dire qu'ils arrivent, il y a une civilisation qui a évolué, et au bout d'un moment, elle arrive à remonter dans le temps, et elle remonte dans le passé pour s'inséminer elle-même, en fait, sa propre race.
Ça pose un paradoxe logique compliqué à résoudre. Hein. La science-fiction s'embarrasse pas toujours, dans les voyages dans le temps, s'embarrasse pas de ce genre de paradoxe. Et justement, bon, ça fait des histoires intéressantes. Mais en même temps, voilà, le problème de l'effet sans cause en physique, c'est difficile, quoi. Il n'y a pas d'effet sans cause en physique. Donc il faut trouver, des fois, la cause, elle n'est pas facile à trouver, hein, par ailleurs. Mais il n'y a pas d'effet sans cause, quoi. Donc là, le fait de pouvoir s'auto-créer, finalement, c'est le paradoxe de l'auteur aussi. J'ai publié un roman génial de science-fiction, mais c'est moi qui, en remontant dans le temps, me l'ai suggéré dans mon passé, et le livre est finalement sorti de rien, quoi. Donc ça, non, c'est ce paradoxe de temporel-là, on ne sait pas le gérer en physique, hein.
On pourrait trouver ça un peu, il y a une ressemblance avec la théorie du bootstrap, enfin le fait que la chaudière, enfin ce phénomène-là, c'est-à-dire que l'information de la fin va modifier le...
Oui, alors ça, c'est bien sûr, ça existe, ça s'appelle la rétroaction en physique. Ça, c'est tout à fait possible, mais seulement, il y a quand même une cause. Par exemple, si vous prenez un effet Larsen, si par exemple, je prends, j'approche ce micro du haut-parleur, ça va nous tuer les oreilles. Mais ça vient de quoi? Même si on ne fait pas un seul bruit, il y a quand même un bruit qui va être créé. Ce bruit, il a une cause. Ce qu'il a comme cause, c'est le bruit de fond, même un truc complètement inaudible à nos sens, et qui rentre dans le micro, qui va dans le haut-parleur, qui est amplifié, qui sort dans le haut-parleur, qui re-rentre dans le micro, et puis c'est amplifié, et puis ça fait cet effet Larsen. Mais la cause, elle a l'air invisible, parce qu'on ne l'a pas capté à nos sens, qui sont trop imparfaits de ce point de vue-là, mais il y a une cause, c'est le bruit de fond. Donc dans la rétroaction, ça génère des choses et qui partent éventuellement du bruit de fond, de quelque chose qui est aléatoire, chaotique, qui n'a pas de structure particulière, qui est même éventuellement complètement imperceptible à nos sens, mais qui est là. Donc parfois la cause, elle peut être invisible, entre guillemets, hein, ou pas facile à voir. Mais des effets sans cause, en physique, on ne peut pas vivre avec, hein, c'est compliqué.
Et on va finir sur cette question-là, parce que malheureusement, on est déjà...
Oui, en fait, je voulais savoir si vous avez lu les livres des frères Bogdanov, La pensée de Dieu, et où, en fait, ils disent que les constantes métaphysiques ont une valeur bien déterminée, qui fait qu'effectivement, notre univers évolue selon une certaine vitesse, et donc il ne s'écroule pas sur lui-même, et qui en déduit que Dieu existe.
Voilà, mais ça, c'est typiquement les visions. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les Bogdanov, à part pour dire que, un, sont des extra-intellectuels, et deux, sont des mauvais scientifiques. Après, ils peuvent écrire de la poésie, éventuellement, mais c'est un autre registre.
J'attends donc la version filmée par Michael
essentiellement, Bay. Essentiellement, voilà, ils sont dans une vision... créationniste finalement des choses, hein. C'est se parler tout à l'heure de ces constantes, non pas métaphysiques comme vous avez dit, ces constantes physiques, ces constantes fondamentales de la physique, la vitesse de la lumière, la constante de structure fine, les rapports de masse de particules élémentaires, des choses comme ça, ou les constantes de couplage, ces choses-là, si on les fait varier un peu, comme je disais, elles ont l'air ajustées, ça veut dire, si on les change un peu, ça fait un monde très différent de celui qu'on connaît. Donc on se dit, eux, ils sont dans la vision, ah ben, donc, c'est donc la preuve qu'il y a un horloger, un créateur, enfin ce que vous voulez, quoi. Bref, il y a une sorte d'esprit supérieur, de principe supérieur qui a fait tout ça. Bon, ok. La science, ça, elle le met de côté pour l'instant. Elle n'a pas de réponse à proposer à ça, hein, à part peut-être ces univers multiples, mais qui ont, comment dire, qui sont une sorte de spéculation malgré tout. Mais voilà, elle n'a pas de réponse à proposer à ça, mais elle met d'emblée ces choses-là de côté qui ne sont vraiment pas du tout d'ordre scientifique. De ce point de vue-là, les Bogdanov, bon, je ne les classerai pas dans les scientifiques et on pourrait les classer dans d'autres catégories de l'activité humaine qui relèvent aussi de l'escroquerie par certains côtés.
Et bien, nous allons laisser la place au prochain débat. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.